Alors, vous l'avez remarqué dans cette bulle, il y a des lieux où manquer de vigilance ou s'assoupir s'avère être extrêmement dangereux. Alors, pour l'avoir expérimenté une fois, donc ça remonte à quelques années, j'étais encore à La Réunion, il m'est arrivé un petit peu la même chose, sauf vers la fin. C'était une route habituelle, connue. C'était une route que j'avais empruntée une bonne trentaine de fois. Mais le problème, c'est que je l'ai empruntée, en fait, tard le soir et à un moment où je manquais d'heures de sommeil. Je voudrais que vous gardiez en fait cette citation en tête. L'habitude estompe la vigilance. L'habitude estompe la vigilance. Car ça a été mon cas, justement, quand j'ai emprunté ce trajet. Il y a eu un clignement d'yeux, puis un deuxième, puis un troisième. Et là, la voiture commençait à se décaler vers la gauche. Et heureusement, sursaut. Je me remets sur la bonne voie. J'ai eu chaud, très chaud. Il aurait suffi que je me décale sur la droite et c'était le fossé. Il aurait fallu qu'une voiture arrive dans l'autre sens et c'était l'accident. Donc, j'ai eu extrêmement chaud. Merci Seigneur. Il y a des lieux plus propices pour s'endormir. Alors, se coucher sur la route, enfin dans sa voiture, c'est dangereux. Mais à l'église, est-ce qu'on peut dormir à l'église? Alors, c'est vrai que le moment de la prédication, c'est un petit peu le point critique. C'est-à-dire, il faut se tenir en éveil pendant 30 minutes. Et si on a eu une semaine un peu fatigante, si on a mal dormi la veille, il y a des chances qu'on pique un peu du nez. Mais je veux parler d'une autre forme de sommeil aujourd'hui. Non pas du sommeil physique, mais du sommeil spirituel. Et notamment de la vigilance face à ce sommeil spirituel. Je voulais m'y étendre parce que j'estime que c'est un sujet très important et surtout dans nos pays occidentaux où on ne craint pas vraiment d'être, comment dire, attaqué le dimanche matin quand nous donnons notre culte à Dieu. Nous sommes dans une situation plutôt confortable, l'Église n'est pas persécutée, mais il y a un risque. Et ce risque, c'est de s'endormir. Alors, vous l'avez compris, donc ce n'est pas un avertissement pour vous mettre bien en éveil ce matin pour ma première prédication, mais bien le sujet de ce matin, le sommeil spirituel. Définissons d'abord ce concept. Alors, on voit que dans la Bible, on est exhorté, en fait, justement pour ne pas tomber justement dans ce sommeil spirituel. Premier verset, Romains 13, 11. Alors, juste avant, Paul résume un petit peu la loi dans un commandement, celui d'appliquer l'amour. Il va dire que c'est d'autant plus important en fait d'appliquer ce commandement que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Deuxième exhortation, toujours Paul, dans Éphésiens 5, verset 14. Donc juste avant, il exhorte les chrétiens à venir à la lumière et il dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Troisième exhortation, cette fois-ci Paul parle de la venue du Seigneur qui sera soudain. Il dit: ne dormons donc pas point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Des versets qui nous invitent donc à la vigilance. Alors, définissons d'abord le sommeil spirituel. Est-ce que tu peux juste cliquer en fait sur la diapo? Peut-être que le... Oh, magnifique. Alors, le sommeil spirituel. Tout d'abord, on a dit que le sommeil, c'est une fonction indispensable au repos du corps et de l'esprit. Elle est donc vitale. Mais ici, le sommeil spirituel, elle, par contre, concerne notre âme et, progressivement, elle éloigne notre cœur, elle éloigne notre âme de la personne du Christ, de la connexion avec le Père, de la communion avec l'esprit. On va évacuer les idées reçues concernant le sommeil spirituel. Alors déjà, ce n'est pas le contraire de l'exaltation spirituelle, visible par le premier poisson. Alors ça, c'est issu en fait d'une BD d'Alain Auderset qui caricature un petit peu le monde chrétien. C'est gentil, hein, c'est pas... Alors, l'exaltation spirituelle, on a tendance à dire qu'un chrétien qui est vivant, c'est un chrétien qui... ou une église, c'est une église dans laquelle il y a des pleurs, des cris, où on chante avec extase... Alors, je ne pense pas que le contraire du sommeil spirituel, ce soit ça. Une église vigilante, une église prudente, n'est pas forcément celle qui se voit le plus. Deuxièmement, le contraire du sommeil spirituel, ce n'est pas non plus une ardeur démesurée, soit pour l'évangélisation, ou soit pour pratiquer des activités à l'extérieur de l'église, visible par le deuxième poisson. Comme vous voyez, il est très actif. Encore une fois, une église vigilante, une église vivante, n'est pas forcément celle qui s'active le plus, celle qui s'entend le plus dans le domaine public. Il est temps d'aborder la parole de Dieu pour essayer justement de mieux appréhender ce concept. Alors, premier texte, je vous invite à prendre la lecture du chapitre 20 du livre des Actes. Chapitre 20 du livre des Actes, et nous commencerons à partir du verset 6. Donc c'est l'auteur du livre qui parle, et il dit « Quant à nous, nous sommes embarqués à Philippe, après la fête des pains sans levain. Après une traversée de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas, donc là il parle de Paul et de ses compagnons, où nous avons passé une semaine. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain, et comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusque vers minuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairés par de nombreuses lampes. Un jeune homme nommé Eutychus, plus connu sous le nom de Tiche, s'était assis sur le rebord de la fenêtre, et comme Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba du troisième étage. Quand on le releva, il était mort. Paul descendit, se pencha vers lui, le prit dans ses bras et dit « Ne vous inquiétez pas, il est encore en vie. » Il remonta, rompit le pain, mangea, continua de parler jusqu'au point du jour. Puis il partit. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui, au grand réconfort de tous. Donc là, happy end, je vous rassure. Eutyche, un jeune du GGA de l'église de Troas, un jeune comme moi. C'est un jour particulier pour l'église parce qu'elle accueille un hôte de marque, Paul. On lit au verset 9 que celui-ci était à la fenêtre. Alors on imagine la chaleur dégagée par les nombreuses lampes. On est le soir, la réunion à l'église se prolonge car Paul, qui est de passage, doit partir le lendemain. Donc il y en a beaucoup en fait qui souhaitent profiter de sa présence. Lui, il est à l'écart. Il est assis, le temps passe. Il est minuit et le voilà endormi profondément. Personne ne semble le remarquer, donc je pense qu'il est peut-être un peu loin du groupe de discussion. Et la prédication de Paul, bien sûr, avait suscité beaucoup de questionnements. Alors, on va s'intéresser à une question, pourquoi s'est-il endormi ? Réponse A, parce qu'il fatigué, peut-être, Tiche. Bon, il est dit qu'il est jeune, donc c'est quelqu'un dans la force de l'âge. Je ne pense pas que ce soit la raison principale. Réponse B, la longueur du sermon. Presque une journée quand même. Ok, on va dire que Tiche n'est pas un grand adepte de débats théologiques à la manière du GBU. Bon, c'est pas trop son truc, donc bon, il préfère s'éloigner. Est-ce que le discours était monotone ? Réponse C. Attendez, c'est Paul qui parle. Paul, celui qui, il y a quelques chapitres plus tôt, était devant l'aéropage d'Athènes, et discuter avec les philosophes, donc on peut se permettre de douter de la monotonie du discours de Paul et des questions que cela a suscité dans l'auditoire. Réponse D, et je pense que on arrive à la bonne réponse. Enfin, je suis désolé, je donne la bonne réponse. Moi, je pense qu'il s'ennuyait. Eutyche s'ennuyait. Premièrement, il se met à l'écart, volontairement. Et ça me rappelle une image bien connue en ce début d'été, celle d'un barbecue. Alors on va attendre que l'image arrive. Alors, vous savez sans doute que les morceaux de charbon, quand on fait un barbecue, vont rester chauds, incandescents, quand ils sont au centre, avec la braise. Si on prend un morceau, bien sûr pas avec les doigts, et qu'on l'éloigne du centre, il va se refroidir. Il va perdre de sa chaleur. Si on remet ce morceau de charbon au centre, il reprendra sa chaleur initiale. Alors, Eutyche, c'est un petit peu ce petit bout de charbon en fait, qui s'éloigne du centre et qui progressivement en fait, se refroidit. il s'éloigne du feu de la conversation. Deuxièmement, s'il s'éloigne, je l'ai dit, c'est volontairement, parce qu'il s'ennuyait sans doute. Attiré par l'extérieur aussi, il s'éloigne du groupe et il s'assoit près de la fenêtre et regarde à l'extérieur. Alors, pour l'avoir constaté chez certains de mes élèves, la place près de la fenêtre est une place très convoitée. Pourquoi ? Alors, d'une part, on peut regarder vers l'extérieur, les arbres, l'activité en fait hors de la salle de cours. Donc ça veut très bien dire que on peut s'évader un petit peu parce que ce qui se dit à l'intérieur ne nous intéresse guère. Le tiche est un peu ça. D'autre part, non, c'est tout, pardon. Alors, une envie donc de voir l'extérieur, parce que justement, ce qui se dit à l'intérieur ne nous intéresse guère. Alors, est-ce que vous n'avez pas déjà ressenti un petit peu ces émotions à l'église ? Alors certes, on n'a pas de fenêtre pour pouvoir s'y installer, l'église est très bien conçue, on est obligé en fait de regarder le prédicateur. Mais parfois, on peut venir à l'église avec, comment dire, pas forcément avec envie. On vient parfois dans une habitude qui ne se dit pas son nom, enfin qui ne dit pas son nom, et celle-ci, très dangereuse, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'habitude estompe la vigilance, encore une fois. On peut commencer à trouver certaines prédications ennuyeuses, du déjà vu, on devient distrait, on a l'esprit ailleurs, parfois on écrit des SMS, alors que nous sommes en train d'être exhortés. Nous sommes à l'extérieur, le regard vers le monde, les pensées vers le monde, et non plus à l'écoute de Dieu. L'oreille entend, mais l'esprit n'écoute pas. On est occupé par les pensées du monde. Et, comme pour Otiche, la chute peut être dure. Et là, c'est sûr. Satan, qui est souvent comparé à un lion rugissant, notamment dans l'épître de Pierre, on parle de ce prédateur qui rugit, là, il fera le moins de bruit possible. Au contraire, il va tranquillement nous laisser nous endormir. Première facette du sommeil spirituel, s'éloigner du feu, c'est se laisser refroidir, s'ennuyer, ne plus avoir envie de s'imprégner de la parole de Dieu, de se laisser exhorter et être attiré par le monde. Un autre épisode nous montre une autre facette du sommeil spirituel. Deuxième texte, et là nous nous intéressons à un personnage plus connu sans doute que Otiche, Jonas. Premier chapitre du livre de Jonas, et nous lirons du verset 1 à 6. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaça de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Et quoi ? Tu dors ? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et ne périrons-nous pas ?» Alors, Jonas, imaginez la scène. Des vagues de plusieurs mètres de hauteur, un vacarme assourdissant, un bateau secoué dans tous les sens. Et Jonas, lui, arrive à dormir. Voilà quelqu'un qui n'est pas insomniaque. Jonas, contrairement à Otiche, lui, était sur le chemin de la désobéissance. Dieu lui avait indiqué une route, il prend délibérément la décision d'aller dans le sens inverse. Et les termes sont forts, je vais l'entendre, il dit qu'il fuit la présence de l'Éternel. Alors que les autres s'activent pour maintenir le bateau à flot, alors que les autres ont peur d'y rester, lui s'isole dans la cale du navire. Il cherche la solitude, le repli. Il s'endort, privilégiant le sommeil pour oublier la réalité. Peut-être est-ce aussi le signe d'une relative indifférence de sa part à l'égard du sort de l'équipage. Débrouillez-vous tout seul, semble-t-il dire, je m'en fiche. Le sommeil spirituel nous guette lorsque nous refusons l'obéissance. Le sommeil spirituel nous guette lorsque nous devenons indifférents à l'égard des autres. Le capitaine dit, mets-toi debout et prie ton Dieu. Alors, entendez-vous ce cri de nos prochains ? Bien sûr, peut-être pas avec ce ton. Mais parfois, nous sommes endormis, n'entendant même plus les appels au secours de ceux qui vont mal autour de nous, de ceux qui peinent à maintenir le bateau à flot, de ceux qui peinent à maintenir la tête hors de l'eau. Ceux-ci cherchent parfois à travers nous le secours de Dieu. Et ceux-ci sont même parfois surpris de nous voir ne pas prier pour eux. Exactement comme le capitaine pour Jonas. Deuxième facette du sommeil spirituel, refuser l'obéissance à Dieu, mépriser ses commandements, oublier que nous devons être pour nos prochains un instrument de Dieu pour le salut du monde et être indifférents à l'égard de nos prochains. Enfin, un dernier exemple, et on s'arrêtera là pour notre parcours de la Bible. Dernière facette qu'on retrouve dans Matthieu 26, versets 37 à 45. Passage bien connu. Là-dessus, donc là on est juste après le repas de la scène, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'éloigna de quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, « Ô mon Père, si c'est possible, que cette coupe de l'épreuve me soit épargnée. Toutefois que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite il revint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. » Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis il se lamenta une deuxième fois. Il se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis. Car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. » Au jardin de Gethsémané, notre maître prit avec lui ses disciples les plus proches. C'est un moment crucial dans l'Évangile. Il a besoin de leur soutien dans la prière. Et Jésus lui-même prie toute la nuit pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Il se prépare à la terrible épreuve du sacrifice. N'oublions pas que c'est un moment très difficile pour lui. Il est en agonie pour accepter la coupe de Dieu. Il va dire à ses disciples de prier pour lui, mais aussi et surtout, je crois, pour eux, pour ne pas qu'il manque de vigilance, pour ne pas céder à la tentation, car l'esprit est pleine de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Cette parole sonne avec toute la solennité d'un avertissement divin. Par trois fois il vint, par trois fois il les trouva endormis. Ils n'ont pu veiller, ils n'ont pu prier et se préparer à l'épreuve. Ils étaient pleins de bonne volonté, mais ça n'a pas suffi. Voilà la troisième facette du sommeil spirituel. Manquer de vigilance. Se préparer très peu à l'épreuve qui arrive et s'endormir sur nos acquis. L'épreuve sera alors plus difficile à surmonter. Regardons celle de Pierre. Les soldats arrivent. Lui, qu'est-ce qu'il voudra faire ? User de l'épée. Première erreur. Par trois fois il s'est endormi, par trois fois il reniera le Seigneur au matin. Deuxième échec. Et là, c'est plus douloureux pour lui. Jésus l'avait encouragé à se préparer spirituellement, à se tenir prêt, à être vigilant dans la nuit. Il s'est endormi et s'est retrouvé pris au dépourvu. Et il a réagi selon son caractère, encore une fois. Pour la première fois. Mais pour la deuxième fois, il en vient même à renier Jésus. Donc là, vous voyez à quel point le manque de préparation, le manque de vigilance, où est-ce que cela peut nous conduire ? Alors, quand l'épreuve arrive, il faut qu'elle nous prenne jamais au dépourvu. C'est un petit peu la leçon de ce passage. Alors, on ne va pas partir sur un autre passage pour découvrir justement la solution. On reste sur l'impératif de Jésus. Veillez et priez. Ce qui constituera nos deux prochaines parties. Veillez. La veille est le contraire du sommeil. C'est un mot d'ordre pour les sentinelles que nous sommes. Notre garde a commencé quand nous avons accepté Christ, et désormais nous sommes des veilleurs sur les remparts et nous voyons les mouvements de l'ennemi. La sentinelle a toujours un objet à la main, le corps. Car si elle voit l'ennemi, il est nécessaire pour elle de prévenir ceux qui sont derrière. La sentinelle n'est pas une statue sans vie. La sentinelle n'est pas sur la défensive. La sentinelle observe, scrute la nuit. La sentinelle cherche à discerner ce qui se passe dans l'obscurité. Sans signal de leur part, l'ennemi peut approcher. L'ennemi peut assaillir les murailles par surprise. Dès l'aube et tout au long du jour, elle doit être constamment sur ses gardes. Et le succès de son service dépend de sa fidélité et de sa rapidité d'action. J'aime beaucoup l'exemple des suricates. Pour chercher leur nourriture, ils doivent sortir de leur tanière et creuser le sol, parfois assez profondément. Ils ont donc la tête enfouie et sont donc vulnérables à toute approche des prédateurs. C'est là que les sentinelles suricates ont un rôle clé à jouer. Leur job, scruter le ciel. Et par des cris spécifiques, alors je ne vais pas vous imiter le cri des suricates, ils vont alerter tout le groupe s'ils voient un prédateur arriver, et là, piou, ils s'enfuient tous dans leur tanière. Leur survie en dépend. C'est cet esprit de sentinelle que le Seigneur veut nous donner. Être capable de scruter le danger, de veiller aussi sur le groupe. Son ordre est urgent et solennel. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Si le Seigneur nous avertit avec autant de solennité, c'est que nous sommes spécialement exposés aux attaques de l'ennemi, exactement comme les sentinelles. N'oubliez pas que l'ennemi ou le prédateur va chercher en premier lieu à neutraliser les sentinelles. Une fois que celles-ci sont neutralisées, il sera bien sûr beaucoup plus aisé de s'attaquer aux plus faibles. Veillons donc, soyons des sentinelles de confiance et veillons les uns sur les autres exactement comme la sentinelle sur les quatre. La tentation de nous endormir est grande, la tentation de nous endormir est subtile, mais veillons afin que rien ne nous surprenne. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas désarmés. Notre arme suprême, c'est la prière. Veillez et priez. Si l'exhortation à la vigilance sous-entend des dangers, l'invitation du Seigneur à la prière nous montre notre privilège, notre vocation. Notre arme suprême, c'est la prière. La comparaison avec les suricates s'arrête donc ici. Nous ne sommes pas que de simples suricates, je vous rassure. Eux, leur seule chance de survie, c'est de fuir dans les tanières. Nous, inutile de fuir dans nos églises, nous pouvons, si l'ennemi approche, nous pouvons neutraliser l'ennemi, grâce à la prière, encore une fois. La prière nous ouvre un vaste champ d'action. La prière nous ouvre un vaste horizon. nous pouvons nous mettre en contact avec le roi. Et ce roi n'est pas de ceux qui se cachent dans un donjon, attendant justement que la tempête soit passée. Non, ce roi, il peut être avec nous, sur les remparts. Je rejoins là le psaume 121 que Frédéric nous a lu ce matin. Alors, la référence, psaume 121 à partir du verset 4. Il ne permettra pas que ton pied trébuche, celui qui te garde ne sommeillera pas. Non, il ne sommeille pas ni ne dort, celui qui garde Israël. Ce roi ne dort pas, ce roi ne sommeille pas. La vigilance des chrétiens, si elle peut décroître, celle de Dieu sera toujours à son maximum. D'où l'urgente nécessité de nous mettre en contact avec lui. Alors, j'ai bien conscience qu'en disant tout cela, que nous sommes dans une société où tout semble nous disputer en fait ce temps personnel que nous devons passer avec Dieu. Et pourtant, il faut que nous nous mettons en contact avec Dieu. Ne commençons jamais une journée par la prière. Ne terminons jamais une journée sans avoir fait notre rapport au chef. Dieu dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, je voulais juste m'attarder en fait sur la fin de ce verset. Prie et ton Père te le rendra. Ça rejoint le psaume 121 qu'on a dit tout à l'heure. On doit se mettre en connexion avec le Père, mais on doit avoir la certitude que celui-ci ne manquera pas justement à veiller sur nous. Alors, notre vigilance n'en sera que renforcée. Si nous prions, si nous veillons. Et là, l'ennemi, encore une fois, bien que celui-ci, en fait, avance dans l'ombre, avance de façon la plus discrète possible, prêt à bondir sur sa proie, il ne pourra pas nous atteindre. Parce que nous serons vigilants. Et surtout, nous serons sous la protection de ce Dieu, qui, lui, ne sommeille jamais. Et si jamais des mots vous manquent, il est dit aussi, donc là, un autre verset dans Romains 8, 26, que l'Esprit va nous aider dans notre faiblesse. Si vous ne savez que dire, priez l'Esprit Saint, car celui-ci intercédera par ses soupirs. Romains 8, verset 26. Donc vous voyez, nous pouvons veiller, prier, afin d'affirmer notre communion avec Dieu. Nous pouvons veiller et prier afin que rien ne nous surprenne. Et surtout, nous pouvons veiller et prier car nous avons l'assurance que ce Dieu que l'on prie ne sommeille pas et nous garde.